Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et bien justement, à la une, pour éclairer cette première matinale spéciale présidentielle, notre sondage BVA Orange pour RTL.
Emmanuel Macron est en tête, quel que soit le casting, et confirmation justement pour Marine Le Pen. Son principal problème s'appelle Éric Zemmour.
Ce sera l'objet de votre édito, Olivier Bost.
Oui, je vais essayer de vous aider pour y voir un peu plus clair.
Et on vous retrouve dès la fin du journal.
Et comment faire quand le seul médecin d'un EHPAD est anti-vax, un mois après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. RTL fait le bilan ce matin. 15 000 personnels ont été suspendus. Dans ce journal, l'attente insupportable pour 118 femmes qui accusent leur gynécologue de viol ou d'agression sexuelle. Mise en examen depuis 7 ans, le médecin n'est toujours pas jugé. Et puis les charmes de l'administration française. Un homme n'arrive pas à avoir de carte d'identité. Le nom de sa commune est trop long, ça ne rentre pas sur la petite carte format carte de visite.
J'adore ça.
RTL Matin.
Depuis un mois, vous le savez, les soignants doivent être vaccinés pour exercer. Eh bien, RTL fait le bilan ce matin. 15 000 personnels ont été suspendus. Alors, c'est une infime minorité, hein, 0,6% seulement des 3 millions de salariés concernés. Mais cela suffit parfois à donner des sueurs froides aux responsables des plannings, comme dans cette EHPAD de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Reportage d'Agathe Landais.
Derrière son ordinateur, Amila parcourt ses plannings.
Tout le rouge, c'est des absents. Là, deux personnes absentes, deux autres personnes là, voilà.
Un vrai casse-tête depuis un mois pour cette secrétaire des ressources humaines.
Bah, tout le mois de septembre, pour nous, ça a été chaotique. Hein. Quotidiennement, on avait 4-5 remplacements à faire, mais compliqué à trouver. Malheureusement, à un moment donné, la cadre infirmière se retrouvait à faire le poste d'infirmière. On supplie les vacataires de venir et on donnait des heures supplémentaires aux personnes qui voulaient travailler.
Car aujourd'hui, manquent à l'appel trois infirmières, une aide-soignante et surtout le médecin de l'établissement que Mustapha Boulay. Lémia, le directeur, a mis un mois à remplacer.
Moi, j'ai eu recours à des recruteurs, à multiplier des annonces. J'ai sollicité notamment mon agence régionale de santé pour pouvoir avoir une autorisation d'un médecin qui était diplômé hors Union européenne, qui intervient à la fois en milieu hospitalier et qui intervient chez nous en parallèle.
Ce directeur n'a donc pas eu d'autre choix que de se contenter d'un médecin en CDD et qui n'est pas là à plein temps, car l'obligation vaccinale a encore plus compliqué la vie des EHPAD qui souffraient déjà d'une pénurie de médecins.
Merci Agathe Landais, ce sont les EHPAD de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont les plus touchés avec, en l'occurrence, 15% de personnel suspendu. Les tests Covid sont gratuits pour le dernier jour aujourd'hui. À partir de demain, ce sera 44 € pour un PCR, 22 € pour un antigénique en laboratoire, mais entre 25 et 30 € pour l'antigénique en pharmacie. Seulement, hein, rappelons-le, si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de prescription. Et puis Paris se vide, c'est François Langlais qui nous donnait ce chiffre hier. 6000 enfants en moins dans les écoles primaires et maternelles en cette rentrée, une baisse sans précédent. Les familles se font la belle, il y a une vraie conséquence sur le marché de l'immobilier. Enquête de la brigade RTL à suivre tout à l'heure à 7h15.
Le transport de fret, lui aussi, se transforme avec cette crise sanitaire.
Oui, ça coûte aujourd'hui aux entreprises 6 fois plus cher qu'avant pour transporter leurs marchandises en avion ou en cargo. Résultat, elles sont de plus en plus nombreuses à préférer le train, notamment entre la Chine et la France, Arnaud Touche.
Pour son entreprise de vélo électrique, Bike, François Chevalier a toujours utilisé le transport maritime pour acheminer ses marchandises de la Chine vers la France. Mais la crise sanitaire a tout changé.
En 2020, j'ai utilisé 2 fois le fret ferroviaire pour un gain de temps et pour tester. Et maintenant, donc, j'ai 6 conteneurs qui prennent le train. J'utilise le train là, sur cette fin d'année 2021.
Il faut une vingtaine de jours pour que ces 6 conteneurs arrivent directement près de Paris. Et dans son cas, c'est même moins cher qu'en bateau.
Aujourd'hui, effectivement, les prix du fret maritime sont passés à 18 000 $, là où le fret ferroviaire est passé à 16 000.
Le nombre de trains entre la Chine et la France est passé de 14 en 2019 à presque 50 en 2020. Et cela ne fait qu'augmenter cette année, détaille Xavier van der Peppen, directeur fret chez Forwardis, une filiale de la SNCF.
Ce que les entreprises nous disent, c'est qu'on utilisera encore le bateau, mais le train prend sa place à côté du bateau. Il y a moins d'avions de passagers, donc il y a moins de fret en soute. Il y a un transfert de fret aérien qui s'opère sur le train.
Et les nouveaux clients sont majoritairement des petites et moyennes entreprises qui misent sur la rapidité et la fiabilité du transport ferroviaire.
Merci beaucoup Arnaud Touche. Et puis à propos de la Chine, les coûts de production dans le pays n'ont jamais été aussi hauts depuis 25 ans. Le prix du charbon a augmenté de 75%. Certaines usines chinoises sont contraintes de s'arrêter, également parce qu'elles peinent à être alimentées en électricité.
Il est 7h04, RTL en mode présidentiel. Nouveau rendez-vous ce matin. Marine Le Pen est donc la première invitée de nos petits déjeuners de campagne de 7h30 à 8h45.
Et confirmation pour elle ce matin, on le disait avec notre sondage BVA Orange pour RTL. Éric Zemmour est est son principal problème. S'il n'est pas candidat, elle est deuxième assez largement, autour de 25% d'intention de vote. Mais si le polémiste d'extrême droite y va, elle tombe à 16 ou 17%, talonnée en l'occurrence par Éric Zemmour, qui lui est pointé à 14 points. Emmanuel Macron reste en tête du premier tour, quel que soit le casting. Autre enseignement, Xavier Bertrand conserve une légère avance sur ses concurrents à droite. Et à gauche, au Parti Socialiste, Anne Hidalgo s'enfonce à 4% d'intention de vote.
Alors on rappelle, précaution d'usage, mais elle est légitime, qu'un sondage n'est qu'une photo à un instant précis.
Oui, d'autant que seul un peu plus de la moitié des Français affirment être d'ores et déjà sûr de leur choix. Et puis à propos des thèmes de campagne maintenant, autre enseignement de notre sondage ce matin, c'est la santé qui arrive en préoccupation numéro 1 devant le pouvoir d'achat et la sécurité, à égalité avec l'avenir de notre système social. Pour information, l'immigration n'arrive qu'en 13e position des préoccupations des Français.
Dans un instant, l'affaire est hors norme. 118 femmes qui accusent leur gynécologue d'agression sexuelle ou de viol. Depuis 7 ans, le médecin est mis en examen, mais l'affaire n'est toujours pas jugée. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 7h05. À tout de suite sur RTL.
Le code des assurances.
RTL Matin. Il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. Et ce gynécologue du Val-d'Oise accusé d'être un violeur en série.
Près de 7500 de ses patientes ont été contactées par les enquêteurs. 118 d'entre elles ont porté plainte pour viol et pour agression sexuelle. Mais depuis 8 ans, l'enquête n'est toujours pas bouclée, Gauthier Delon-Bugard.
Oui, dès les années 2000, le docteur Tran est visé par plusieurs procédures pour des violences sexuelles présumées, toutes classées sans suite. L'affaire est relancée en 2013. Des milliers de patientes sont alors auditionnées par les enquêteurs. 118 d'entre elles déposent plainte. Quelques mois plus tard, le praticien est mis en examen pour viol et agression sexuelle lors de consultations médicales. Maître Blandine Heurton défend trois anciennes patientes.
Le docteur Tran a exercé sur elles des caresses au niveau de leur zone intime, des touchés vaginaux sanglants avec des mouvements de va-et-vient qui ne sont nullement et d'aucune façon justifier des caresses, des baisers. Mes clientes ont été victimes d'agressions sexuelles. Beaucoup ont été victimes de viols. Rien ne justifie, à mon sens, aujourd'hui, la longueur de cette procédure. Le médecin mis en cause, le docteur Tran, doit être jugé.
Le praticien de 70 ans rejette ces accusations. Lors de son audition devant les juges, il explique que ces caresses ont été mal interprétées. Son souhait était, dit-il, de détendre et rassurer ses patientes. Le gynécologue est libre, sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer la médecine.
Merci Gauthier Delon-Bugard. Deux jours après la mort de trois migrants percutés par un train à côté de Saint-Jean-de-Luz, l'homme rescapé a pu s'exprimer. Il explique qu'ils ont marché sur la voie pour échapper à d'éventuels contrôles de police, qu'ils se sont allongés pour se reposer avant de s'endormir. En Norvège, un homme armé d'un arc a tué 5 personnes et en a blessé 2 autres hier à Kongsberg, dans le sud-est du pays. Il a été interpellé, il a agi a priori seul. La piste terroriste n'est pas écartée, mais les autorités ne se prononcent pas pour l'heure sur le mobile éventuel. L'homme n'a pas encore pu être interrogé.
Bon, allez, quelque chose de plus léger pour finir, avec le charme légendaire, parfois, de l'administration française.
Oui, un dilemme à s'arracher les cheveux pour cet habitant. Écoutez bien, de Saint-Quentin-la-Motte croit au bailli dans la Somme. Il n'arrive pas à avoir de carte d'identité, figurez-vous. Pourquoi ? Eh bien, écoutez le maire de la ville, Reynald Boulanger.
On a informé cet habitant de Saint-Quentin-la-Motte qu'il ne pouvait pas obtenir sa carte d'identité parce que le nom de la commune n'entrait pas sur les nouveaux formats des cartes d'identité parce qu'elles étaient rétrécies par rapport à avant. Et ne pouvait entrer qu'un certain nombre de lettres. Je pense que la préfète a alerté les services du ministère de l'Intérieur. On a eu une réponse en nous disant que le problème était en cours de traitement, que ça serait probablement réglé pour la fin de l'année 2021, mais qu'en attendant, on pourrait diminuer le nombre de lettres en modifiant le nom de la commune. Et donc, c'est devenu Saint-Quentin-Motte-Croix-Bailly.
Voilà, comme quoi tout s'arrange. Le dilemme de la carte d'identité au micro de Julie Bro. Le parcours du prochain Tour de France sera dévoilé tout à l'heure à 11h30. Nicolas Georgerot, évidemment, a pu avoir quelques indiscrétions. Départ de Copenhague le 1er juillet, ça on le savait déjà. Mais les pavés de Paris-Roubaix au programme dès la 5e étape. Une arrivée ensuite à l'Alpe d'Huez, toujours mythique. Il nous donnera, Nicolas, tous les détails avec la brigade RTL tout à l'heure dans le journal de 8h.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Longchamp.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 4, le 2, le 3, le 9, le 5 et le 10. La dernière minute étant le 9 Madison Avenue.
Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h10, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nous dévoilons donc ce matin notre tout premier sondage BVA Orange RTL pour l'élection présidentielle. Pas de leader à droite, pas de leader à gauche, et un président au-dessus de la mêlée. Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair Olivier.
Alors d'abord pour ne pas donner dans la course des petits chevaux bien trop éloignés du rendez-vous présidentiel, je vous propose de regarder deux indicateurs extrêmement révélateurs de l'état d'esprit des Français qui ont été interrogés. D'abord, nous aurions tort de nous dire que la présidentielle n'intéresse personne, oui. Que c'est beaucoup trop tôt. À 6 mois du premier tour, plus de 7 Français sur 10 s'intéressent à l'élection. C'est ni plus ni moins qu'il y a 5 ans. Pas de dépolitisation en vue, donc. Ensuite, les Français se préoccupent d'abord des questions de santé et de pouvoir d'achat, des préoccupations que nous ne retrouvons pas tous les jours dans ce que racontent les candidats. L'autre indicateur, c'est la part de gens interrogés qui disent aujourd'hui pour qui ils voteraient. C'est souvent un chiffre qui manque dans les sondages récents, alors qu'il révèle la part de volatilité de l'opinion. Entre ceux qui expliquent qu'ils peuvent changer d'avis et ceux qui n'ont pas encore choisi, cela représente, selon BVA, quasiment la moitié des personnes interrogées. Autant dire que tout ce que je vais vous raconter après n'est pas à prendre avec des pincettes, mais à considérer comme une photo incomplète de l'état de l'opinion à ce jour.
Comme ces choses sont bien dites. Alors une fois ces précautions prises, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des rapports de force ?
Bon, il y a quand même deux grandes tendances qu'on ne peut pas ignorer. La première, c'est qu'Emmanuel Macron est au plus haut que son score de premier tour en 2017, entre 26 et 30% selon les configurations. Autre tendance très lourde, la deuxième place pour accéder au second tour est très disputée dans des eaux basses. Cela se joue entre la droite de la droite et la droite. Tous les candidats concernés, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand, sont dans une position à la fois inconfortable et instable, autour de 12 à 17% au mieux des intentions de vote. Quant à la gauche, ces divisions la cantonnent en bas de tableau. Personne ne se démarque, tous sous les 10%.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne menace Emmanuel Macron.
Oui, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas un candidat qui regrouperait un vote anti-Macron. Il y a un combat pour capter une part du Rassemblement national et une part du vote Fillon de la dernière présidentielle, ce qui donne un ordre d'arrivée toujours identique. Marine Le Pen, puis Éric Zemmour, puis le candidat LR, toujours dans cet ordre, quelle que soit la configuration. Et parmi les candidats LR, Xavier Bertrand ferait mieux que Valérie Pécresse, qui ferait mieux que Michel Barnier, mais tous les trois sont à la peine de 8 à 12% au mieux des intentions de vote.
Donc c'est bien Éric Zemmour qui chamboule tout.
Alors, en fait, nous sommes encore sur le coup terrible qu'Éric Zemmour a donné à Marine Le Pen et tapé là où ça fait mal à la fin de l'été. Fin août, il a dit « Tout le monde au RN sait qu'elle ne gagnera jamais ». Le doute existait, il l'a formalisé jusqu'à toucher ses électeurs. C'est le fruit de ce coup politique terrible qui se voit plus que jamais encore ce matin dans notre sondage BVA Orange.
Un sondage à retrouver en intégralité sur le site RTL.fr et nous interrogerons dans 20 minutes Marine Le Pen sur cette situation. Comment peut-elle contrer Éric Zemmour? Elle vient d'arriver d'ailleurs dans nos locaux. La présidente du RN est l'invitée de notre première édition des petits déjeuners de campagne. Je vous le rappelle, elle répondra donc à Alba Ventura et François Langlais pour la grande interview. Ce sera dans une quinzaine de minutes, excusez-moi. Et vous pourrez vous aussi interroger la candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle à partir de 8h20. Appelez-nous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute, je vous le rappelle, ou par SMS en démarrant votre message par le code MATIN au 64 900, 35 centimes le SMS.
Yves Calvi, RTL Matin.
Notre brigade RTL tout de suite avec Aurélia Valarier. 6000 élèves en moins dans les écoles primaires à Paris depuis la rentrée. La capitale se vide petit à petit de ses habitants entre les confinements successifs, le développement du télétravail, les prix exorbitants de l'immobilier. Beaucoup préfèrent aller s'installer ailleurs. C'est l'objet de notre brigade ce matin. Bonjour Aurélia.
Bonjour à tous.
Alors, mythe ou réalité, est-ce que les Parisiens fuient la capitale ?
Eh bien oui, c'est une réalité. Ce sont souvent des familles avec de jeunes enfants qui décident de partir. Avec quasiment le même budget, elles trouvent plus grand ailleurs. C'est le cas par exemple de Julien, après avoir passé sa vie à Paris, il a décidé de partir dans le sud de la France quand il est devenu papa pour la troisième fois.
J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour trouver quelque chose qui me paraisse convenable pour rester vivre à Paris avec trois enfants. J'avais pas le budget pour vivre dans Paris, j'ai bien compris. J'ai échangé un appart de 50 mètres carrés contre une maison de 150 avec un terrain de 3000 mètres carrés avec une piscine immense.
La maison de ses rêves, Julien l'a acheté 600 000 euros alors que son appartement parisien de 45 mètres carrés en valait 500 000.
Est-ce qu'on peut mesurer tous ces départs, Aurélia ?
Alors, il n'y a pas de chiffre officiel en main. Il suffit de demander aux agents immobiliers. Ils mettent 3 fois plus de temps aujourd'hui à vendre un bien, comme l'explique Kevin Gabizon, directeur d'agence dans le 11e arrondissement.
Aujourd'hui, c'est les mêmes délais. Aujourd'hui, pour vendre un 35 mètres carrés, 40 mètres carrés, on va mettre un mois mois et demi, alors que versus une semaine et demie, deux semaines maximum avant le Covid.
Et enfin, dernière donnée, celle de l'Académie de Paris, 6000 élèves en moins inscrits à la rentrée pour l'école primaire, 1000 pour le collège et aucun changement pour le lycée. Donc on se rend bien compte ici que ce sont bien les familles avec des enfants en bas âge qui s'en vont.
Les comptes sont bons et ils sont faits. Merci beaucoup Aurélia Valarié. Dans un instant, RTL Événement, nous vous emmenons à Montpellier avec notre correspondant Patrick Hisson. La ville vient d'accueillir une famille afghane. Rencontre dans un instant.
Fiat. RTL Événement.
Il est 7h19, après presque deux mois de travail inlassable. Une famille afghane, qui par un simple mail avait lancé un appel désespéré à la mairie de Montpellier, est arrivée cette nuit sur le sol français. Cette famille est celle d'Akimullah Razniwal, un Afghan qui avait reçu la médaille d'honneur de la ville de Montpellier il y a 15 ans. Patrick Hisson, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est une chaîne de solidarité absolument incroyable qui a donc abouti cette nuit où 10 réfugiés sont arrivés à Montpellier.
Oui, il était 2h45 ce matin lorsque Akimullah a posé le pied sur le sol français, sur le tarmac de l'aéroport de Montpellier, accueilli par Michael Delafosse, le maire de la ville.
You're welcome. Rochamalemta, Montpellier.
Akimullah Razniwal était en danger de mort depuis la prise de pouvoir des talibans et c'est surtout toute sa famille qu'il a voulu protéger en lançant son appel au secours.
Les talibans s'en prenaient à moi, ils étaient très menaçants. C'est pour ça que je suis parti. Je voulais que ma famille soit protégée. J'ai 7 enfants, les plus grands vont à l'université. Je veux qu'ils puissent poursuivre leurs études.
Il aura fallu près de 2 mois grâce au concours décisif d'une ONG, de plusieurs ministères pour arriver à sauver Akimullah, son épouse et ses 7 enfants. Grégory Bozonnet est le directeur de cabinet du maire de Montpellier.
C'est un travail d'équipe, hein. Il y a plus de 30 personnes qui sont intervenues sur le dossier, plein de moments où ça aurait pu ne pas fonctionner, hein. C'est certain, on le savait. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères nous avait alerté, hein, sur la difficulté de partir de Mazar-e-Sharif, qui est loin de Kaboul en plus. Et voilà, après, clairement, la situation dans laquelle ils étaient, les dangers réels qu'ils couraient, les amenaient à préférer cette solution qui était complexe, mais qui était une solution.
Et cette histoire est encore plus incroyable avec ce retour en France dans l'avion qui transportait les handballeurs de Montpellier, Patrice Canaillé et leur entraîneur.
Le maire de Ravenny que l'on a ramené avec sa famille, je l'avais rencontré il y a de ça plus de 15 ans quand il avait été fait citoyen d'honneur à Montpellier. Il était venu voir un match à Montpellier, j'étais déjà là. Et c'est pour nous une belle image, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire en présence de l'ambassadeur de France, qu'on pouvait être fier d'être dans un pays qui était capable aussi d'accueillir ce genre de personnes.
Très fier de cette histoire et de son épilogue, c'est avec sa ceinture bleu-blanc-rouge que Michael Delafosse a reçu cette nuit ses réfugiés politiques.
Nous, on est la France et on est un pays qui proclame la fraternité. Accueillir à la fois mon homologue, mais l'accueillir avec 3 couleurs qui font notre fierté, mais qui sont souvent très espérées dans le monde parce qu'on est la patrie des droits de l'homme. Bon, faut le dire. Et puis parce que la France, c'est les lumières et qu'en Afghanistan, c'est l'obscurantisme.
Sain et sauf, après 2 mois où le départ paraissait presque impossible, c'est une vie en France que viennent d'entamer Akimullah et sa famille.
Avec cette chaîne de solidarité tout à fait particulière qui a donc abouti cette nuit, je vous le rappelle. Merci beaucoup Patrick Hisson.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h22, bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous écoute pour notre pépite musicale.
Alors depuis 4 semaines maintenant, Vanessa Paradis est applaudie chaque soir au théâtre dans la pièce Maman, écrite par son mari Samuel Benchetrit. Une première pour Vanessa, qui fêtera l'an prochain ses 35 ans de carrière, car rappelons-le, Joe le Taxi. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, est sorti en avril 87. Vanessa Paradis avait alors 14 ans, mais ce qu'on oublie, c'est que Joe le Taxi n'est pas du tout son premier enregistrement. 4 ans plus tôt, à 10 ans, la petite Vanessa s'était retrouvée en studio avec le groupe Les Forbans, vous vous souvenez, Rockabilly,
oui, oui.
Pour enregistrer un twist, un morceau intitulé « La magie des surprises parties ». C'est notre pépite du jour. Vanessa Paradis, accompagnée par Les Forbans, chante sa première chanson.
Yeah.
génial. La magie des surprises parties. Premier morceau enregistré par Vanessa Paradis à l'âge de 10 ans. C'était 2 ans après son passage culte dans l'émission L'École des fans où elle avait interprété Émilie Joly. Alors cette chanson, La magie des surprises parties, n'a pas trouvé de maison de disque à l'époque. Bon. Vanessa Paradis l'a interprétée qu'une seule fois à la télévision en 85, mais pas en France. C'était en Italie sur la Rai Uno. Elle représentait notre pays dans une sorte de concours Eurovision pour les enfants. Après le triomphe de Joel Taxi, vous pensez bien, les producteurs ont voulu rééditer ce 45 tours. Mais les parents de Vanessa s'y sont opposés. Le disque était fabriqué, mais il n'est jamais sorti. Les stocks ont été détruits. Quelques exemplaires ont survécu, autant dire qu'ils sont collecteurs.
Bien entendu, dans notre discothèque personnelle à RTL. Merci Anthony, on vous retrouve demain et rendez-vous sur l'application RTL pour découvrir notre radio exclusivement diffusée en ligne. RTL 100% France et RTL 100% Hit. Avant 7h30, notre point météo avec Louis Baudin et nos rendez-vous avec les grosses têtes. Bonjour Louis.
Bonjour Yves.
À tout de suite.
RTL Matin.
On retrouve nos grosses têtes dès 15h30 avec Laurent Ruquier et l'appel à l'aide de Francis Cabrel pour son village.
À Stafford, évidemment, c'est le village de Francis Cabrel. Il a même lui-même lancé un appel, Francis Cabrel.
Ah, voilà pourquoi j'avais...
Dans un clip vidéo.
Il a été conseiller municipal.
Voilà, c'est plus lui. Hein,
c'est à l'époque où j'étais conseiller municipal, il y avait encore plein de docteurs. Maintenant, il n'y en a plus. Et là, je vais faire une chanson pour faire venir le docteur dans ma région.
C'est vrai, mais là, ils ont besoin d'un médecin. Il a 68 ans, le médecin, il aimerait bien pouvoir prendre sa retraite, mais il est encore là, le docteur Rivière, il s'appelle.
Même... Oh oui, je veux partir à la retraite. Je veux que la rivière rejoigne l'océan.
C'est chouette. Mais oui, c'est quand même chouette, c'est-à-dire que même le docteur a un nom qui pourrait aller dans la chanson de Cabrel. Ouais. Oh, le docteur Rivière.
La rivière, c'est tari, le docteur est parti.
Et vous retrouvez toute l'équipe des 15h30. Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Yves, rebonjour.
Comment va se jouer notre journée?
Ah, magnifique. Là, c'est simple. Hein. Effectivement, le temps sera sec et ensoleillé toute la journée. Les quelques brumes, brouillards ce matin, il n'y en a pas beaucoup, vont vite se dissiper. Et ensuite, du soleil en prime, moins de vent près de la Méditerranée, plus de Mistral et de Tramontane. Puis côté température, hop, attention, il fait froid ce matin. Hein. Les gelées sont fréquentes, notamment autour du Massif central, parfois dans le nord-est ou encore même autour de la vallée de la Garonne. Et cet après-midi, 14 à 16 degrés de la région Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace, 17 à 18 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 18 à 21 dans la moitié sud.
Il fait beau, Louis Baudin.
Yves Calvi, RTL présidentiel, le petit déjeuner de campagne.
Dans quelques instants, Marine Le Pen nous rejoint dans ce studio pour le lancement de nos petits déjeuners de campagne sur RTL. La grande interview, je vous le rappelle, avec Alba Ventura et François Langlais dans 5 minutes. Le Café Calvi pour mieux connaître la candidate juste après le journal de 8h. Et vous, auditeurs et lecteurs, vous aurez la parole et pourrez dialoguer avec Marine Le Pen à partir de 8h25. RTL, il est 7h30. – 7h30, toute l'actualité de ce jeudi 14 octobre avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
– Bonjour Yves, bonjour à tous. Et un mois après la mise en place de l'obligation vaccinale pour les soignants, environ 15 000 personnels sont suspendus, dont un millier dans les EHPAD. Globalement, 91% des soignants ont désormais reçu au moins une dose. Sans vaccin, c'est généralement un test négatif qui tient lieu de passe sanitaire. Mais à partir de demain, les tests anti-Covid deviennent payants pour les non-vaccinés. 22 euros pour un antigénique, 44 pour un PCR. La santé et le pouvoir d'achat. Ce sont les deux principales préoccupations des Français à 6 mois de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort de notre baromètre BVA pour Orange et RTL. Baromètre qui place toujours Emmanuel Macron en tête au premier tour, quel que soit le cas de figure. Marine Le Pen se qualifierait sans problème sans Éric Zemmour. Mais s'il se présente, c'est serré, 16 à 17% pour la candidate du RN, 13-14 pour le polémiste. Avec une marge d'erreur à 2,5 points, on peut dire qu'ils sont au coude à coude. Dans l'ombre de l'affaire Rémi Darraille, un autre gynécologue est poursuivi pour violences sexuelles. Le docteur Tran est mis en examen pour 75 viols et 14 agressions sexuelles sur des patientes. Il a exercé pendant plus de 20 ans à Daumont, dans le Val-d'Oise. Pour cette enquête exceptionnelle, près de 7500 de ses patientes ont été contactées. 160 affirment avoir été victimes. Il nous accompagne depuis plus de 120 ans. Le ticket de métro sera bientôt un souvenir. À partir d'aujourd'hui, les carnets de 10 tickets ne sont plus en vente dans une centaine de stations. Ils auront totalement disparu d'ici le mois de mars. C'est le ticket dématérialisé qui prend le relais.
C'est une révolution. Hein.
Exactement. En Norvège, toujours aucune explication. explications après l'attaque qui a fait 5 morts et 2 blessés hier soir. Attaque menée par un homme armé d'un arc et de flèches. Il a été interpellé. Selon certains médias, il s'agit d'un Norvégien converti à l'islam et ayant des antécédents médicaux. La piste terroriste n'est pas exclue. Et puis Mylène Farmer toujours au top. 340 000 billets ont déjà été vendus pour sa tournée des stades à l'été 2023. Le Nevermore Tour, ce sera le 8e show de sa carrière.
Impressionnant. Merci beaucoup Isabelle Choquet.